Voilà, bonjour à tous, je vous laisse vous installer. Et nous allons vous distribuer donc un fonds de cours que vous pourrez... J'ai mis des petites agrafes là, mais que vous pouvez retirer, puisque vous aurez à votre disposition dans les deux premières feuilles une petite chronologie simplifiée de l'Église primitive qui vous permettra de vous repérer tout au long de cet enseignement, ainsi qu'un petit lexique avec les mots-clés ou peut-être déjà rencontrés lors des précédentes sessions, avec Alexandre Nanot en particulier. Mais voilà, ça vous permettra d'avoir à côté de vous pendant l'enseignement les mots-clés. Et puis, j'ai aussi préparé, donc sur les deux premières feuilles, vous n'oubliez pas de tourner les feuilles parce que c'est recto verso, vous avez quelques petites biographies courtes des acteurs principaux de l'Église primitive, des personnes voilà, dont on va parler pendant ce temps. Donc moi, j'ai envie de commencer en nous rappelant l'objectif de cette formation. C'est une formation de disciples, et donc notre objectif, c'est d'étudier l'histoire de l'Église primitive pour voir ce que peut nous apprendre en tant que disciples cette histoire de l'Église primitive. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter aujourd'hui pour ma formation ? Donc je vais essayer de mettre en avant ces éléments importants pour nous aujourd'hui. Et suite à l'enseignement de Jean-Marie sur le contexte, sur les apôtres et tout ce qu'il a pu vous partager, est-ce que ça va ? Vous voulez plus ? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on puisse continuer ? Alors, on continue donc. Et tout à l'heure, Jean-Marie, il a parlé du temple de Jérusalem. Il vous a aussi rappelé que les juifs, les chrétiens étaient juifs au départ. Donc, on va commencer notre parcours de l'Église primitive, enfin poursuivre, en évoquant la grande révolte juive dans les années 66-73, donc après Jésus-Christ, qu'on intitule souvent la guerre des Juifs contre les Romains. Et lorsque les historiens traitent de cette partie de l'histoire, eh bien en particulier de l'histoire primitive, c'était un sujet très particulier, et on est dans l'obligation d'en parler un petit peu ce matin. C'est donc l'épisode de la destruction de Jérusalem et de son temple en l'an 70. Cet épisode est important parce que c'est l'accomplissement de nombreuses prophéties qui ont été données dans la Bible. Et en plus, cet épisode, il a changé, il a modifié de nombreuses données dans le monde antique de l'époque. Et surtout, il a fait basculer l'évangélisation du monde et le christianisme dans une nouvelle ère. Tout à l'heure, Jean-Marie vous a parlé de la Nouvelle Alliance. Vraiment, cet événement, c'est un événement qui a fait basculer l'Église dans une nouvelle ère. Donc, je vais essayer d'aller assez vite avec le temps que j'ai. Et je vais essayer de résumer un petit peu la situation politique et religieuse de l'époque. Donc, Jean-Marie nous l'a dit, il y a un réveil du Saint-Esprit qui balaye toute la Judée, la Samarie, la Galilée et toute la Palestine. Autant donc, là vous avez une carte de la Palestine au temps de Jésus, et on sait que l'Église primitive, elle va rassembler des dizaines de milliers de personnes, elle va vivre des miracles formidables, mais aussi des sévères persécutions, comme vous avez eu quelques exemples cités tout à l'heure. Et puis, pendant ce temps, on sait que les apôtres, eh bien, les apôtres du Christ, ils vont continuer de parcourir le monde et répandre l'Évangile. Ou alors, on sait que certains d'entre eux sont déjà morts martyrs à cette époque-là, à l'époque de la destruction du temple. On sait que dans le contexte de l'époque, cette région de la Palestine tout entière, elle était secouée par des troubles, par des violentes révoltes, par de sanglantes insurrections qui étaient menées par des Juifs et qui veulent chasser les Romains de leur pays. Et ces révoltes, elles sont sévèrement réprimées par l'occupant romain. On peut voir donc dans le livre des Actes, qui nous est parlé justement de quelques-unes de ces révoltes, notamment dans Actes 5, 36, où il nous est dit, rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas, qui se donnait pour un personnage important, et il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite. Or, il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés, et l'on n'en entendit plus parler. Et puis un petit peu plus loin, verset suivant, on parle aussi donc d'un fameux Judas, le Galiléen, dans Actes 5:37, qui a aussi été l'objet d'un mouvement dont Flavius Joseph, historien de l'époque, parle, et il est dit « Après lui, à l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition et lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. » Donc là, on voit bien le contexte un petit peu de la région à l'époque. C'est l'époque du procurateur Félix qui détenait Paul en prison. Puis il va l'envoyer à Rome. On sait que le mouvement des Zélotes va générer à cette époque-là un groupe de fanatiques, un groupe de, on les appelle même des sortes de cordes de terroristes, des brigands, des assassins qui sont armés de poignards et qui n'hésitaient pas à frapper dans la foule quiconque leur paraissait suspect. Donc vous voyez, il y a un contexte de très forte tension, de violence qui est là. Et on a en même temps des prétendus prophètes, des imposteurs, des magiciens, des faux messies qui surgissent de tous les côtés à ce moment-là dans Jérusalem et qui provoquent des surexcitations des esprits. Et donc de nombreuses personnes qui sont dans Jérusalem en même temps sont dans une grande pauvreté, une grande misère, parce que les travaux du temple, du fameux temple d'Hérode, sont achevés. Et donc il y a une population qui se retrouve sans emploi. On peut compter jusqu'à 10 000 ouvriers qui d'un seul coup se retrouvent dans la misère, sans travail, sans pain. On sait que d'après l'historien Flavius Joseph, qui n'hésita pas à témoigner quelques temps plus tard, il parle de cette situation de Jérusalem en disant « Cela arriva aux Juifs en punition de ce qu'ils firent à Jacques le Juste, qui était le frère de Jésus, appelé le Christ. » Et que les Juifs tuèrent, bien qu'il fût très juste. Donc voilà déjà un premier témoignage de la situation compliquée de Jérusalem. En effet, en l'an 66, 4 ans donc après l'exécution de Jacques le Juste, un terrible jugement divin va s'enclencher sur la nation d'Israël et sur la ville de Jérusalem pour finalement aboutir à la destruction de Jérusalem et à la transportation de nombreux Juifs qui vont être dispersés dans le monde romain, en Afrique du Nord, un petit peu partout. Donc les émeutes vont commencer par la Palestine, et en particulier à Césarée, la ville maritime de Césarée, qui était la plus peuplée de la Judée à cette époque-là. Là, il y a de véritables troubles qui provoquent, de la part des Romains, des répressions très sévère. On parle de sauvagerie inouïe, où des milliers de Juifs, des hommes, des femmes, des enfants, étaient déchirés à coups de fouet et crucifiés. Malgré la violence de toutes ces réactions des Romains, l'insurrection finit quand même par prendre le dessus. Et une faction des révoltés s'empare de la fameuse forteresse de Masada. Là, vous avez quelques images. Est-ce que certains connaissent ? Est-ce que certains sont déjà allés en Israël ? La forteresse de Masada, ça vous dit quelque chose ? Oui. Alors voilà, c'est un lieu vraiment très particulier. Et donc on sait que cette forteresse a été un enjeu aussi dans cette guerre des Juifs. Une véritable guerre civile donc éclata dans Jérusalem entre les Juifs modérés qui cherchaient un terrain d'entente avec les Romains et puis des Juifs qui étaient radicaux qui voulaient absolument chasser de la Palestine les occupants. Je vous fais un petit résumé. Finalement, le siège de Jérusalem a lieu en 70. C'est Vespasien qui était devenu empereur à cette époque-là, en 69, à la mort de Néron, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est son fils Titus qui va prendre le commandement du siège de la ville de Jérusalem. Et Titus va vraiment détruire la ville de Jérusalem. On sait que la ville de Jérusalem chute en 70, elle est prise, elle est rasée. Le second temple de Jérusalem n'existe plus. Voilà, donc vous avez un portrait de Titus qui est affiché. Et puis, la chute de Jérusalem, elle se produit donc en 70. C'est un événement qui est majeur pour l'histoire et pour la tradition juive. Alors, j'essaie d'aller assez vite. On sait que la ville de Jérusalem, elle recelait de grandes quantités de richesses, d'or, de nombreuses richesses qui étaient cachées, qui étaient entassées. Et les Romains, pendant ce siège de la ville, vont piller toute la ville. Ils vont essayer de fouiller les maisons, ils vont essayer de récupérer tout ce qui est dans les souterrains, les égouts, les sépulcres, etc. Et ils vont notamment prendre des ustensiles très célèbres du temple qui ont été saisis et qui ont été emmenés à Rome. Notamment un fameux chandelier, un chandelier d'or qui était destiné à un usage particulier dont parle Flavius Josèphe. Et donc les Romains vont célébrer cette sorte de victoire suite à la chute de Jérusalem. Et on va retrouver cet objet sur des bas-reliefs de monuments en plein Rome, voilà, pour célébrer les victoires des Romains. Quand on parle de ce temple de Jérusalem, le temple d'Hérode, on parlait de lui en disant « c'est l'édifice le plus admirable qui ait jamais été dans le monde ». Et il a été pillé, il a été brûlé, il a été démonté, pierre par pierre, démoli et rasé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de la ville de Jérusalem après ce siège ? Eh bien, Titus a voulu conserver... Alors ça, c'est une maquette de ce temple d'Hérode. Donc vous voyez un petit peu à quoi il ressemblait. Et Titus, lui, il a voulu conserver, il n'a pas tout détruit, il a voulu conserver un pan de mur qui regardait vers l'Occident et qui servait de soutien à l'esplanade du temple. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le cotel, le mur... ou le mur occidental, ou le mur des Lamentations. Et aujourd'hui, ce mur, il sert de lieu de prière. J'ai eu l'occasion d'y aller avec un de mes garçons, et c'est vraiment une atmosphère très, très particulière, cet endroit. Et c'est vraiment un lieu de recueillement pour la nation juive. C'est aussi un des lieux les plus touristiques dans le monde, les plus visités. Et Titus, lui, il a voulu le conserver, cet endroit, parce qu'il avait l'idée de s'appuyer sur ce mur pour construire une citadelle. Donc il voulait en faire quelque chose. Pour terminer avec cet événement donc, sur Jérusalem, ce siège, cette prise de Jérusalem dura environ 5 mois. On sait que cela a coûté la vie à 1 100 000 juifs, parmi lesquels 600 000 personnes moururent de faim, dans des conditions absolument dramatiques, et on cite aussi des scènes de cannibalisme. Tout autour, il n'y a pas seulement la ville de Jérusalem qui est touchée, de nombreux villages, des villes de Judée, de Galilée, de Palestine furent détruites. Des populations entières furent massacrées dans des circonstances absolument abominables. Ça dura donc encore pendant des années, et en particulier la prise de la forteresse de Masada, qui servait de refuge à toute une population qui voulait continuer la lutte contre les Romains. Donc toute cette partie de la population juive de Jérusalem et de la Palestine, avec tous ces événements, elle a été contrainte de fuir, de se disperser, et c'est ce que l'on a appelé la diaspora, à travers le monde antique de l'époque. On sait qu'avec cet historien précieux, Flavius Josèphe, lui, il participa au début à la révolte du côté des Juifs, et puis après, on sait qu'il s'est rallié aux Romains. Et il a rédigé donc un récit détaillé de ces événements dans un livre qui s'intitule « La guerre des Juifs ». Et donc, pour rappeler cela, on sait qu'il y a de nombreuses prophéties qui ont été données pendant des siècles par Moïse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, par Jésus lui-même. On peut voir ça, dans Marc 13, mais aussi dans Matthieu 24, où il dit que le temple sera détruit pierre par pierre, qu'il ne restera plus rien. Et donc, on voit ici que cette prophétie, ces avertissements, ils se sont accomplis d'une manière implacable et irrémédiable. Le livre des Actes nous dit que pendant ce temps, la parole de Dieu continuait de croître, le nombre des disciples se multipliait, beaucoup dans Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Mais pour les Juifs qui refusèrent le message de la grâce qui venait de leur Messie. Ils s'engagèrent souvent dans de sévères persécutions contre les disciples et l'Église du Christ. Alors de terribles jugements tombèrent sur cette génération, des jugements qui étaient l'accomplissement des prophéties millénaires et d'avertissements qui avaient maintes et maintes fois été répétés de la part de Dieu. Donc la vie du monde juif va changer radicalement à partir de cet événement-là, de la prise de Jérusalem, de sa destruction, la destruction du Temple. Et la Judée va devenir une province romaine, séparée de la province de Syrie, et une légion romaine va même être là pour, autour de Jérusalem pour veiller sur la région. Alors, pour terminer avec cet épisode, tout ce qui faisait que la vie juive existait, c'était le fameux Sanhédrin, eh bien, tout cela va disparaître. Donc les Juifs, le culte des Juifs va pouvoir seulement se faire finalement dans les synagogues à partir de ce moment-là. Alors je vais un petit peu plus loin, je passe un petit peu plus loin. Voilà, je vous ai mis une image du Colisée, parce que pourquoi le Colisée ? Eh bien parce que le formidable trésor qui était le fruit du pillage de la ville de Jérusalem va servir à la réalisation, la construction du Colisée à Rome. Où, là même où sera organisé donc des spectacles, des jeux de cirque, des combats de gladiateurs, où périrent de nombreux juifs. Et là aussi, on sait, d'après des témoignages, qu'un certain Ignace d'Antioche, qui a été livré aux fauves en l'an 107 dans ce Colisée. Et on sait que, d'après les textes, donc c'était sous l'empereur Trajan, les lions ne laissèrent de son corps que quelques ossements. Les persécutions donc sont là, elles vont continuer, elles vont redoubler pour le peuple juif. Et les Romains qui étaient tellement écœurés, on peut le dire, écœurés par le souvenir qu'ils avaient du comportement sauvage et extrémiste des Juifs lors du siège de Jérusalem, eh bien ils vont continuer donc leur persécution. Mais c'est surtout, donc pour terminer avec cet événement, la destruction du Temple et la destruction de la ville de Jérusalem qui va montrer clairement que le temps de l'alliance, de l'ancienne alliance liée au judaïsme était terminé et qu'un temps nouveau était définitivement installé, le temps de l'Église de Jésus-Christ, lié à cette nouvelle alliance. Donc cette expansion de l'Évangile au début du christianisme, bien sûr elle est le fait des apôtres, qui se sont donc du coup rapidement dispersés du fait des persécutions et qui ont été envoyés, qui ont créé une multitude d'équipes. Et l'église mère de Jérusalem, alors qu'elle semblait donc importante, eh bien elle est devenue, elle n'est plus devenue le centre, surtout pour donc le peuple juif. Et donc ça montre bien pour nous aujourd'hui que Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait un centre, une personne qui détienne voilà le qui soit à l'origine du christianisme, du développement du christianisme. Tous ces apôtres, tous ces disciples, ils vont se disperser et l'évangile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il va se répandre. Alors justement, je continue avec justement cette expansion. Tout à l'heure, Jean-Marie vous a cité ce verset-là de Romains 10, 18 qui dit « Leur voix a retenti par toute la terre, leurs paroles sont parvenues jusqu'aux extrémités de la terre habitée. » Donc malgré la persécution, malgré la chute de Jérusalem et du Temple, eh bien, l'expansion du christianisme se fait et on sait que d'après le livre des Actes, à nouveau, on nous dit « Les assemblées étaient, elles n'avaient pas disparu, elles étaient au contraire affermies dans la foi ». Et elles croissaient en nombre, elles se multipliaient. On dit même qu'elles surabondaient. Il y a une autre traduction, surabondaient chaque jour. Alors Jean-Marie vous a bien parlé, même rapidement, des apôtres. Mais on sait que ces 12 apôtres, y compris donc Matthias qui est venu les rejoindre après, l'apôtre Matthias, on sait qu'aucun serviteur de Dieu aujourd'hui n'a pu ou ne pourra exercer un ministère comme eux. Parce que eux, les apôtres, ils étaient au contact, ils ont vécu avec le Christ. Ils ont été enseignés par le Christ. Ils ont vu ses miracles. Ils ont vu sa crucifixion, sa résurrection, son ascension. Donc les apôtres, ils vont sillonner le monde, ils vont annoncer l'évangile, ils vont implanter de multitudes d'églises, ils vont former, ils vont établir à la tête de chacune de ces églises une équipe de serviteurs, pas un serviteur. On le sait dès le début, d'après les textes. une équipe de serviteurs, qu'ils sont appelés anciens, surveillants ou évêques. Parfois, on utilise le mot président, dirigeant. Et ces apôtres du Christ, ils vont également former des responsables d'église, un nombre considérable de serviteurs de Dieu, une sorte de seconde génération d'apôtres, d'évangélistes, de docteurs de la parole, qui vont à leur tour, eux, répandre la parole de Dieu et bouleverser la terre habitée. On a une multitude de littérature, de textes qui témoignent de cette merveilleuse expansion de l'évangile durant donc tous ces premiers siècles de l'ère chrétienne. Malgré ces persécutions, on a des témoignages notamment de Tertullien qui a rédigé un livre, son fameux Apologeticum, et il dit que les chrétiens étaient partout. Ils étaient partout dans l'Empire romain, et cela dans toutes les classes de la société. Il affirme avec évidence que les autorités étaient même effarées devant tant de conversions au Christ. Voilà, donc ça nous prouve vraiment que l'Évangile continue d'avancer malgré les persécutions. Alors Jean-Marie, je vais passer rapidement parce que Jean-Marie vous a montré tout à l'heure, vous a expliqué que l'Évangile s'est répandu donc en Asie mineure, en Grèce, en Égypte, en Tunisie, en Algérie. Et on a donc d'importantes communautés, populations carthaginoises, berbères, qui ont été romanisées à cette époque-là, qui vont accepter très rapidement le christianisme, la parole de Dieu. Alors je passe un petit peu pour aller plus vite. Et puis en regardant donc dans les paysages des régions de l'Afrique du Nord, on voit donc de nombreux baptistères qui sont les témoignages de la présence d'églises qui étaient vivantes, qui étaient importantes, où l'on baptisait les gens par immersion. On voit la configuration de ces baptistères. Ils étaient baptisés par immersion, donc selon des normes bibliques, durant les premiers siècles du christianisme. On a de nombreux textes qui nous prouvent que les chrétiens étaient très nombreux au sein de l'Empire romain, mais qu'ils étaient aussi répandus partout au-delà des frontières de l'Empire romain, comme Jean-Marie vous l'a dit tout à l'heure, partout dans le monde. Alors, je passe rapidement ensuite sur le fait que les chrétiens, on les comptait finalement dans toutes les catégories de la société, aussi bien chez des artisans, des commerçants, mais aussi on voit que l'Évangile va commencer à pénétrer dans les hautes classes de la société. Et même la cour impériale et les familles impériales, les empereurs, vont être touchés par le christianisme. Et pourtant, on est en pleine période de persécution, et donc toutes les classes sociales vont être touchées. Alors, je vais citer un épisode pour un petit peu élargir mon propos. On sait qu'en Gaule, avec Martin de Tours, donc au IVe siècle, on sait que l'Évangile s'est répandu aussi et qu'on a détruit des temples païens qui ont été remplacés par des églises, des ermitages chrétiens ont été construits pour la prière, de nombreuses églises ont été implantées. Et Martin n'hésite pas à affronter, on a des témoignages, des textes écrits, les puissances des ténèbres dans de véritables confrontations de puissances où les puissances démoniaques sont débusquées, sont vaincues et l'Évangile est magnifiquement vainqueur de toutes ces oppositions. On a j'ai mis quelques réflexions de Jean Chrysostome qui était surnommé Bouche d'or, qui montre combien l'évangélisation tenait à cœur des chrétiens de l'Église primitive. Rien n'est plus vain qu'un chrétien non appliqué à sauver les autres. Voilà, ça nous parle pour aujourd'hui. Hein, rien n'est plus vain qu'un chrétien qui n'est pas appliqué à sauver les autres. Voilà, c'était leur préoccupation, l'Église primitive. Et au milieu de toutes ces persécutions, les chrétiens de l'Église primitive, ils ont vraiment travaillé, on le sait, par amour. On a des témoignages nombreux, avec du zèle, pour répandre l'Évangile, et cela pour un grand nombre de personnes. Je vais partager maintenant un petit peu sur le quotidien de l'Église primitive de cette époque-là. Donc pendant environ 3 siècles, l'Église primitive a partagé, elle vivait en partageant les biens. Ça s'appelle la communauté de biens. Pratiquer l'aide aux nécessiteux, le partage des biens. Tout à l'heure, je réexpliquerai qui étaient les pères de l'Église, mais on a de nombreux témoignages des pères de l'Église qui racontent la vie quotidienne des chrétiens qui vivaient dans la compassion, dans l'amour, l'entraide, dans les assemblées. Et ça, tous ces témoignages sont très émouvants. On voit cet amour qui est déversé abondamment sur le monde romain, sur toutes les civilisations qu'ils rencontrent, à la fois pour le témoignage et l'évangélisation. On sait qu'il y a eu des miracles, des signes, des prodiges, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, des résurrections de morts, des vies transformées. Et tout cela, ça va bien sûr toucher et bouleverser le monde romain. En fait, on sait que cette onction du Saint-Esprit, elle n'a jamais cessé durant toute l'histoire de l'Église, mais en même temps, il y a eu des manifestations de la gloire de Dieu qui ont été plus nombreuses à certains moments de l'histoire de l'Église, et puis à d'autres moments, j'en parlerai tout à l'heure, où on a vu que ça déclinait, et on verra pourquoi. En ce qui concerne donc Martin de Tours, donc on parle de lui pour montrer la puissance de la vie de l'esprit de l'époque qui guérissait. On dit qu'il possédait à un tel degré la grâce de la guérison que rares étaient les malades qui venaient le trouver sans recouvrer aussitôt la santé. Alors j'ai choisi aussi quelques cours parce qu'il y en avait énormément de témoignages qui rapportent que Martin de Tours usait d'autorité sur la nature et les animaux. Je vous lis quelques exemples. Les miracles de Martin à la fin de sa vie sont innombrables. Il guérit à distance les épidémies. Les éléments déchaînés lui obéissent, il arrête des orages de grêle qui ravagent les récoltes, les troupeaux égarés se rassemblent, les chiens de chasse abandonnés, le lièvre ou le cerf qu'il traque. Donc il y a vraiment une puissance de Dieu qui était manifestée à cette époque-là, qui est magnifique à voir. On a aussi, je vous ai noté donc, dans votre fond de cours un témoignage d'Ambroise de Milan qui dit « En Jésus, nous trouvons tout ce qu'il nous faut ». Pour la vie présente, pour la vie à venir. Veux-tu être guéri ? Il est le médecin. As-tu soif ? Il est la source. Es-tu tourmenté par le sentiment de ton injustice ? Il est la justice de Dieu. As-tu besoin de secours ? Il est la force. Crains-tu la mort ? Il est la vie. Désires-tu avancer ? Il est le chemin. Fuis-tu les ténèbres ? Il est la lumière. As-tu faim ? Il est la nourriture. Avez-vous faim ? Les dons spirituels, les manifestations de Dieu donc, ont toujours existé, mais vraiment pendant l'Église primitive, pendant le mouvement d'expansion des disciples, on a vraiment des magnifiques témoignages de ce que Dieu fait. Mais on sait que les dons spirituels baissèrent en nette intensité. C'est Origène, Chrysostome, Augustin d'Hippone qui en parlent et qui se plaignent que dans certaines assemblées, les dons spirituels vont commencer à diminuer, à se raréfier, et qu'elles ont même décliné toutes ces manifestations de puissance. Alors on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces magnifiques manifestations de l'esprit d'un seul coup déclinent. Alors on a plusieurs explications, je vais essayer de les résumer rapidement pour avancer. Et on a tout d'abord, on sait que la mondanité, elle va rentrer dans l'Église, et donc à l'arrivée du pouvoir, notamment de l'empereur Constantin, j'en parlerai tout à l'heure, lorsque la religion chrétienne va devenir la religion officielle de l'État, vous pouvez retrouver donc des petits éléments dans la chronologie ou dans les biographies, le monde inconverti va rentrer dans l'Église, et il va même chercher donc, avoir des privilèges, avoir des avantages en rentrant dans l'Église. Et c'est ce qui fait que tout cela, ça va provoquer un déclin des dons, des manifestations. Beaucoup de principes bibliques ont été abandonnés. Je vais vous citer juste un exemple. Voilà, l'organisation devient très hiérarchisée dans les églises. On oublie le modèle biblique. Les assemblées vont tomber dans la religiosité avec une liturgie qui va devenir froide, sans vie. et qui va prendre toute la place de l'esprit, de la vie de l'esprit. On va réciter des prières, on va avoir des cultes païens qui vont rentrer dans l'église, on va avoir des fêtes officielles, des processions qui vont être mises en place. Voilà, tout cela qui, on s'éloigne petit à petit de l'enseignement biblique. Et puis, bien sûr, avec le monde et la religiosité, ce sont de nombreuses superstitions qui vont entrer dans l'église. Notamment, je vais en citer quelques-unes, mais vous avez donc sur votre fond de cours de nombreux exemples. On commençait à donner de la puissance, à penser que l'eau du baptême avait une certaine puissance. Voilà, donc il y a eu une puissance. Voilà, l'eau donnée, il y avait un pouvoir dans l'eau du baptême. Voilà. Après, il y a d'autres exemples. Ils ont commencé à vénérer des saints, à faire des prières pour les morts, des signes de croix, utiliser des cierges, des statues, des icônes, des reliques, des martyrs, etc. La vénération à Marie. Et donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, il y en a beaucoup qui se sont éloignés de Christ, de leur premier amour, et qui vont revenir vers le monde, tout en étant dans les églises, qui vont revenir vers le monde, et qui vont glisser, certains, vers de véritables péchés. On sait bien sûr, et on va le voir juste un petit peu plus loin, que de nombreuses fausses doctrines vont se développer pendant toute cette période-là. On les appelle parfois des hérésies, donc parce qu'on s'éloigne de la vérité biblique, et donc là, on va voir que c'est souvent la divinité de Jésus qui va être remise en question. Aussi la Trinité, voilà, donc je citerai tout à l'heure quelques exemples. Donc je vais dire très peu de mots par rapport à l'Église persécutée, parce que Jean-Marie a cité pas mal d'exemples tout à l'heure. On sait que dès les premiers temps de son histoire, l'Église de Jésus-Christ a dû affronter d'importantes formes d'opposition. On sait qu'il y a eu des persécutions au dehors, c'est-à-dire par le biais des Romains, mais aussi des attaques en dedans. C'est-à-dire des personnes qui ont dévié et qui ont annoncé des choses. Et ce sont des courants qui se sont développés, qui ont permis à de nombreuses personnes de suivre ces fausses. Donc voilà, toutes ces choses dont nous parlons, voilà, doivent vous parler en tant que disciples. Voilà, parce que ces hérésies, bah, souvent, elles réapparaissent. Elles n'ont pas disparu. Elles portent un autre nom aujourd'hui, mais elles existent encore. Elles existent encore. On sait que donc, parmi les persécutions, il y a eu 249 ans avec 10 périodes de persécution très importantes. Et puis, dans Apocalypse 10, il nous est dit « Ne crains en aucune manière des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. » Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Donc on voit dans les épîtres, dans la parole de Dieu, que voilà, il y a aussi les apôtres qui vont se lever, qui vont écrire des lettres pour résister justement à toutes ces persécutions, à toutes ces hérésies. J'en citerai d'autres tout à l'heure. Donc je passe rapidement parce qu'en l'an 64, sous le règne de Néron, on sait qu'un grand nombre de chrétiens vont être suppliciés. Ils vont subir au début des persécutions qui sont de temps en temps occasionnelles, et puis petit à petit, elles vont être très, très organisées, très réglementées. Et puis on va même classer, suivant les catégories, pour les supplices. Par exemple, les chrétiens romains, ils devaient être décapités. Ceux qui n'étaient pas citoyens romains devaient être brûlés vifs. Crucifiés, jetés aux bêtes. Voilà, vous voyez, c'est très organisé, les persécutions par les Romains. Malgré cela, malgré toutes ces persécutions, eh bien, on a un témoignage de Tertullien qui nous dit, je vous encourage, voilà, à surligner ce passage-là, nous croissons en nombre, malgré les persécutions, nous croissons en nombre. Chaque fois que vous nous fauchez, le sang des chrétiens est une semence. Le sang des chrétiens est une semence. Il y en a beaucoup chez vous qui exhortent à supporter la souffrance et la mort. Et pourtant, leurs paroles ne trouvent pas autant de disciples que les chrétiens qui enseignent par leurs actes. Alors, qu'est-ce qui faisait que les chrétiens étaient persécutés? Ben, tout d'abord, ils refusaient certaines pratiques qu'avaient apportées les Romains. Par exemple, je n'en cite que quelques-unes, vous les avez sous les yeux, d'offrir de l'encens au Dieu Auguste, de jurer devant les tribunaux, d'assister à des fêtes publiques données en l'odeur de dieux païens. Donc, lorsqu'ils refusaient cela, eh bien, ils étaient arrêtés et ils étaient persécutés. Alors là, je vais accélérer un petit peu et je vais aller, par exemple, à l'an 177, donc il y a deux sévères persécutions en Gaule, notamment dans la ville de Lyon et de Vienne. Et les chrétiens étaient souvent, à cette époque-là, accusés à tort, faussement, de crimes. Et l'auteur dit qu'il ne nous est pas permis de les mentionner, ni même d'y penser. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, on sait que visiblement, ils étaient accusés à tort. Et un homme de Dieu qui s'appelait Potin, ancien disciple de Polycarpe, il avait fondé justement à cette époque une église très importante à Lyon. Il a été arrêté à l'âge de 90 ans environ. Et après bien des violences qu'on lui a fait subir, il est mort après deux jours après son arrestation. Alors, quelques exemples, mais Jean-Marie en a cité tout à l'heure, les martyrs de Lyon, par exemple, eh bien, ils ont vécu des souffrances indescriptibles, des coups de fouet, des morsures de bêtes. On les mettait sur des chaises de fer rougies, les membres brûlés, etc. Voilà, et on décrit voilà, toutes ces choses qu'ils ont vécues. On sait que les persécutions continuent avec les règnes d'autres empereurs, comme Septime Sévère. On sait que les persécutions elles ont existé aussi en Afrique du Nord, en l'an 203, où on a des témoignages. Et j'ai surligné une expression, donc j'avance un petit peu plus vite là, où il est dit que les chrétiens, c'était devenu une moquerie, mais c'était devenu aussi un refrain, au Lyon les chrétiens. Donc c'était le chant des, voilà, de l'époque concernant les chrétiens. Il y eut des moments où des milliers de chrétiens allèrent se dénoncer, alors là c'est autre chose, où ils allaient se dénoncer eux-mêmes. Ils réclamaient leur condamnation. Ils espéraient avoir l'honneur de vivre le martyr. Et donc les églises finirent par s'inquiéter de ce zèle mauvais et défendirent aux fidèles de rechercher le martyr. La plus terrible de toutes les persécutions, pour terminer avec cela, ce serait celle de Dioclétien, qui dura de 284 à 305. Donc finalement, le bilan, ce qu'on peut retenir, c'est quand même que malgré toutes ces persécutions, on sait, d'après les écrits qu'on a retrouvés, qu'il y avait environ 3000 chrétiens dans la ville de Rome à l'époque de Néron. Et quelques années plus tard, on sait que ce chiffre a augmenté, qu'il y a eu une multitude de chrétiens. Vers 250, on sait qu'il y aurait eu environ 30 000 personnes. Donc vous voyez, à Rome, malgré les persécutions des Romains, les chrétiens continuent de se multiplier, l'évangile continue d'être répandu. Les persécutions n'ont pas arrêté l'expansion du christianisme. Je vais parler un petit peu de la suite, c'est-à-dire de l'arrivée de Constantin, d'un empereur qui va vraiment modifier la vie des chrétiens, parce que Constantin arrive au pouvoir en 312, et pour le présenter très rapidement, il est le fils d'une mère chrétienne qui s'appelait Hélène. Et lui, justement, du fait que sa mère était chrétienne, il a toléré assez facilement cette nouvelle religion, le christianisme. Et lors d'une bataille du pont de Milvius, où il avait son ennemi qui était son adversaire, il raconte qu'il aurait vu une croix lumineuse avec une inscription, je vous traduis le latin, « Par ce signe, tu vaincras ». Et une fois qu'il a remporté cette victoire, Constantin accepta la religion chrétienne. On dit même qu'il portait sur son casque une croix, qu'il a adopté un étendard avec le monogramme du Christ sur cet étendard. Et donc cet empereur, il va proclamer une loi, on appelle ça un édit, en 313, qui déclare que le christianisme devient la religion officielle de l'État. Alors on peut penser que c'est un progrès pour le christianisme, Mais en fait, donc on sait que Constantin va rendre aux églises de nombreux biens qui avaient été confisqués lors des persécutions. On sait qu'il va décréter le dimanche comme un jour férié, qu'il va donner un jour de repos obligatoire, donc que beaucoup de chrétiens célébraient déjà en souvenir de la résurrection de Christ. Mais en même temps, très vite, là j'avance, très vite, l'édit de Milan ne sera très vite plus respecté. Et on voit apparaître des persécutions qui n'ont plus lieu contre les chrétiens, mais contre les païens cette fois-ci. La religion chrétienne officielle va devenir intolérante, elle va devenir persécutrice vis-à-vis de l'extérieur. Elle va devenir exclusive, et on sait que c'est vraiment en opposition, en contradiction, évidemment, avec les enseignements de Christ. Donc l'Église va s'allier avec le monde. L'Église va devenir une puissance mondaine. Des quantités de païens, de gens qui ne sont pas convertis, vont entrer dans l'Église pour obtenir des privilèges, pour obtenir des avantages. Et le monde va entrer dans l'Église à cette époque-là. L'Église va devenir de plus en plus, on s'éloigne donc des structures bibliques de l'organisation de l'Église, dont Jean-Marie nous a parlé tout à l'heure. L'Église va devenir dépendante de l'État. Constantin se présente en fait comme le chef de l'Église. Il va nommer lui-même les évêques. Il va convoquer, présider des conciles, des réunions d'évêques, normalement, qui devraient eux-mêmes décider de la doctrine, etc. Donc c'est lui qui va le faire. Il va se placer en tête. Et tout ceci va contribuer vraiment à atténuer l'onction du Saint-Esprit dans un bon nombre d'églises à cette époque-là. Ça va, vous ? Ça va pas trop vite, vous suivez ? Oui ? Heureusement, malgré toutes ces déviations de l'Église, on a des témoignages qui prouvent que des multitudes d'assemblées vont continuer à garder des structures bibliques. Elles continuent d'être présentes et de fonctionner avec la puissance du Saint-Esprit, des chrétiens, des églises qui vont s'appuyer non pas sur la puissance de l'État, mais sur la puissance du Saint-Esprit, et qui ne vont pas tarder à être persécutées. Ces églises-là vont être persécutées. Ces églises qui ont des structures bibliques vont être persécutées. C'est ainsi que les persécutés devinrent promptement persécuteurs. Donc ça, c'est une phrase qui est extraite du livre principal que vous a conseillé Jean-Marie tout à l'heure dans vos lectures. Et c'est la première fois qu'en 316, Constantin décide d'utiliser la force pour réprimer un mouvement conduit par quelqu'un qui s'appelait Donna. On a appelé ce mouvement le donatisme. Et en fait, ce mouvement, il avait voulu dès le début se séparer de l'Église catholique et de ses déviations. Et ce mouvement, eh bien, il voulait justement travailler à la sanctification, la purification, la discipline dans l'Église de Jésus-Christ. Et on sait que donc l'empereur Constantin, il a envoyé des soldats. Je résume un petit peu ce qui s'est passé. Des bâtiments d'église ont été saisis. Un évêque et des fidèles donatistes furent massacrés. Pour la première fois, on peut le dire, dans l'histoire, on a frappé du glaive au nom de Jésus-Christ, au nom du Christ, en 316. Alors, je vais vous parler aussi en 321, une grave crise éclate au sein de l'Église, avec un dénommé Arius, qui était presbytre à Alexandrie, qui était à peu près âgé de 60 ans. Il prêchait, il enseignait une doctrine qui niait la divinité éternelle de Jésus-Christ. Donc il enseignait et il répandait cet enseignement qui niait aussi la Trinité. C'était un excellent prédicateur, il était tacticien et il entraînait vraiment des foules très très nombreuses dans ses idées, dans ses conceptions. Et malgré l'opposition de l'Église primitive, cette hérésie, elle a grandi, elle a touché des personnages importants de l'Église et elle est devenue un véritable mouvement. Et donc, de ce fait, l'empereur Constantin se posait la question d'une division qui allait entrer dans l'Église et comme il était à la tête de l'Église, on peut le dire, puisqu'il nommait les évêques, mais aussi de l'État, il a décidé de convoquer un concile, c'est-à-dire une réunion dont l'objectif de repréciser la doctrine, de repréciser les choses. C'est le fameux concile de Nicée. Donc vous avez une représentation qui a eu lieu donc en 325 en Bithynie, donc dans l'actuelle Turquie. Et c'est grâce à l'appui de Constantin que le concile va condamner ce fameux Arius. Et de ce fait, l'Église, plutôt le concile de Nicée, plutôt que l'Église, le concile de Nicée va essayer de préparer un texte qui s'appelle un dogme, dont vous avez certainement entendu parler, qui est resté jusqu'à aujourd'hui un texte important dans l'Église de Jésus-Christ. C'est le symbole de Nicée. On l'appelle le symbole de Nicée. Alors, vous l'avez sur vos fonds de cours et je vous l'ai mis donc sur le diaporama. Ce texte donc proclame la divinité éternelle du Fils et sa préexistence éternelle. Donc, il fallait à ce moment-là que les réagir face à ces hérésies qui étaient diffusées donc par le biais de Constantin qui a été utilisé et par les évêques qui se sont réunis à Nicée. Donc, il a fallu proclamer un texte pour dire voilà la foi, voilà en qui nous croyons. Et dans ce texte-là, moi j'ai surligné dans mon document à moi, engendré monogène du Père, c'est-à-dire de la même essence que le Père. Il n'a pas été fait, il n'a pas été engendré, il est consubstantiel, c'est-à-dire de la même nature que le Père. Donc il y a des choses qui sont redites, mais c'est volontaire dans ce texte-là parce qu'il fallait bien repréciser les choses, pour éviter justement toutes ces déviations. Et puis, il est bien dit, nous croyons à l'Esprit Saint, donc on va voir un petit peu plus loin qu'il y a un autre texte qui a été précisé justement pour que l'idée de la Trinité, elle soit bien établie, elle soit bien confirmée. Donc c'est le fameux credo d'Athanase, donc là je passe assez rapidement. On l'appelle parfois le symbole d'Athanase. Donc il exprime la foi de l'Église primitive. Il expose de façon très claire, ce texte, une bonne partie de l'argumentation d'Athanase en faveur de la doctrine de la Trinité. Alors à nouveau, ce texte, il peut paraître, si vous le lisez tranquillement chez vous, répétitif. On a l'impression qu'on redit plusieurs fois la même chose, mais c'est volontaire. C'était justement pour préciser ce qui n'était pas juste, qui n'était pas vrai. C'était pour mettre en lumière l'hérésie de l'arianisme qui avait tendance à se répandre d'une façon très abondante. Donc Athanase, il va jouer un rôle très important lors de ce concile de Nicée en 325. Alors, on avance encore. Je regarde l'heure. Un des plus célèbres apologistes fut incontestablement quelqu'un qui s'appelait Justin. Il était philosophe palestinien. Il s'est converti à Christ et il a été surnommé à sa mort Justin Martyr. Tertullien, Origène et deux autres pères de l'Église, que j'ai cités un petit peu plus haut, ils ont eux aussi joué un rôle très important pour défendre un apologiste. C'est quelqu'un qui défend la foi. Donc on voit qu'à travers tous ces événements, l'Église de Jésus-Christ, elle a été attaquée donc au dehors, au dedans, par les différentes hérésies. Et je vais rapidement citer quelques exemples d'hérésies, en rappelant toujours qu'à travers les siècles, des multitudes d'Églises sont restées fidèles à la parole de Dieu, mais que très tôt, dans certaines assemblées, il y a eu des déviations, il y a eu des superstitions qui ont commencé à s'introduire et qui vont se multiplier. L'Église sera rapidement donc attaquée au dedans, à la fois par le formalisme des prières récitées, des déviations, des superstitions, avec le fameux à propos de l'eau du baptême qui aurait un pouvoir en elle-même, à propos du baptême des enfants, de la scène, tout était prétexte pour déviation de l'huile, de l'onction d'huile, du signe de croix, etc. On sait aussi qu'il y avait des hérésies qui concernaient la personne, la divinité de Jésus-Christ, et d'autres qui concernaient la personne du Saint-Esprit. Et je vous ai cité donc quelques mouvements d'hérésies comme le gnosticisme, les docètes, séreintes, les ébionites. Voilà. Il y a un auteur qui s'appelle Hippolyte de Rome, qui a rédigé un ouvrage qui est assez parlant parce qu'il dit qu'il a réfuté, il a exposé, il a trouvé qu'il y avait à cette époque-là 32 mouvements hérétiques qu'il aurait réussi à dénombrer. 32, voilà. Donc vous voyez qu'il y avait fort à faire pour les chrétiens de l'Église primitive pour pouvoir vraiment réaffirmer la foi, réaffirmer les choses qui étaient bibliques. Il y avait vraiment un combat terrible à cette époque-là. Alors, je vais passer rapidement pour toutes ces hérésies. J'avais prévu quelques... Vous pourrez lire sur le baptême. J'ai noté pas mal de choses sur le baptême. Et puis, là, je vais avancer pour rappeler justement ce que dit Jésus à propos du baptême. Jésus, il a demandé de baptiser des disciples, pas des incroyants ou des inconscients ou des impénitents. Et dans Matthieu 28, 19... il dit « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant, eux pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc pendant longtemps, je vous l'ai noté, l'Église primitive va rester fidèle à la notion du baptême par immersion. Et elle ne pratique qu'exceptionnellement une aspersion sur les gens malades ou mourants. Mais voilà, on voit qu'un petit peu plus loin, voilà, la notion du baptême va être à nouveau détournée, notamment en 1311, mais ce sera pour une autre session de l'histoire de l'Église, donc au Concile de Ravenne, où on va reconnaître, enfin l'Église de l'époque va reconnaître une valeur égale à l'aspersion et à l'immersion. Vous voyez ? Tout au long de l'histoire, voilà, il y a de nouvelles hérésies qui apparaissent, qui se répètent, qui prennent porte d'autres noms. Alors, je vais presque terminer sur l'histoire, la hiérarchie des églises locales, mais comme j'en ai déjà parlé un petit peu, je vais aller assez vite. On sait que dans les Saintes Écritures, nous voyons que chaque église locale, Pierre en parlera cet après-midi, était dirigée par une équipe de serviteurs de Dieu, et jamais par un seul pasteur, et par un seul évêque. Ce collège de serviteurs s'appelait presbytérium. Il était composé de plusieurs anciens, appelés aussi surveillants, ou ceux qui président, ou dirigeants. Chaque ancien exerçait son propre ministère, prophète, pasteur, docteur, évangélique, apostolique, selon ses dons, son onction, et sa complémentarité avec les autres anciens. Il n'y avait aucune hiérarchie ni supériorité de l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est très important à le souligner. Et chaque église locale était autonome dans son gouvernement, sa gestion, son organisation, mais elle était en profonde communion et en relation avec le corps de Christ, les autres églises locales, les équipes de ministère qui se déplaçaient et qui étaient destinées à les aider et les soutenir. Je vais citer, donc j'avance un petit peu, alors je ne voulais pas montrer tout à l'heure, voilà les pères de l'Église et les conciles, on a parlé du concile de Nicée, il y a eu d'autres conciles, voilà, mais j'ai seulement cité celui de Nicée et le fameux Augustin d'Hippone, qui a vécu donc au 4e siècle et 5e siècle, 354-430. Lui, il a contribué, il y a de bonnes choses dans sa vie, mais il y a aussi de mauvaises choses, il a contribué énormément à établir le système catholique romain. Il a participé à l'établir et à fortifier ce système d'organisation très hiérarchisé, très pyramidal. Il a écrit donc un volumineux ouvrage qui s'appelle « La cité de Dieu » où il encourageait en réalité une organisation donc du type de l'Empire romain, très centralisée, très hiérarchisée et loin du modèle biblique. Alors, je vous ai mis quelques citations qui sont... célèbre d'Augustin, voilà. Et je continue à avancer. Vers la fin du IVe siècle, on a un traducteur célèbre de la Vulgate qui s'appelle Jérôme, qui lui va s'opposer à Augustin d'Hippone, qui va dénoncer, désapprouver son enseignement, et il va rappeler fermement aux autorités de cette Église catholique, il va rappeler les structures bibliques de l'Église locale. Donc voilà, on a sans cesse, au cours de l'histoire primitive, voilà, des hérésies, et puis on a ceux qui vont défendre, ceux qui défendent la parole de Dieu, qu'on appelle les apologistes, qu'on appelle aussi les pères de l'Église. L'Église catholique romaine va donc mettre en place un système très hiérarchisé, centralisé, complètement en opposition aux Écritures. On sait que dans la parole de Dieu, il est dit, parce que va arriver la notion de, dans l'Église catholique, la notion de, d'un évêque à la tête de l'Église de Rome, et puis cet évêque à la tête de l'Église de Rome va porter le nom de père, puis le nom de pape. Et on voit ici, donc, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 23, 9, 11, il nous est dit « Et n'appelez personne sur la terre votre père ». La parole de Dieu, elle est claire. Voilà, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Alors, en parallèle de ces déviations, eh bien, on a des chrétiens. Regardez, dans la suite du fond de cours, je vous ai mis, qui vont rechercher, ils vont vouloir fuir les persécutions et ils vont fuir en même temps le monde romain qui avait pénétré dans l'Église. Et ils vont choisir de vivre à l'écart, ils vont choisir de vivre dans des lieux déserts, isolés, pour vivre une vie austère, de sainteté et d'ascétisme. Voilà, il y a aussi ces mouvements-là qui se développent en même temps. Vous voyez, chacun réagit différemment. Et je voulais... citer par exemple, donc on a ces mouvements-là qui se développent en Égypte, je vais assez vite, mais aussi en Occident, avec Ambroise qui va regrouper au IVe siècle des ascètes à Milan, donc des disciples qui vont avoir une vie de pénitence, de prière, de mortification, etc. Et on a Martin de Tours qui va ouvrir un premier monastère en Gaule. On a bien sûr au Ve siècle, un petit peu plus loin, Benoît de Nursie qui va créer l'ordre des bénédictins. Vous avez entendu parler des bénédictins ? Oui. Et donc il va fonder un monastère en Italie, à Monte Cassino. Et ce sera le début de la règle de Saint Benoît qui va être répandue pendant tout le Moyen-Âge. Alors je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu d'Arius et de l'hérésie arienne. Donc je passe parce que je voudrais vous présenter juste un exemple qui sera un petit peu plus court. Vous aurez donc la possibilité de lire tranquillement chez vous d'autres exemples d'hérésie. Et parmi les autres hérésies, on voit que les apôtres ne vont pas rester sans rien faire, ils vont les combattre. En particulier l'apôtre Paul, on voit qu'il écrit une lettre, une épître aux Colossiens, où il dit... Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ, car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Donc dans Colossiens 2, 8, 9. Donc les apôtres qui écrivent justement pour combattre toutes ces hérésies par des épîtres. Alors, je voulais vous parler un peu plus, en particulier, vous trouverez sur vos fonds de cours, sur l'exemple d'une hérésie qui s'appelait les docètes, ou apparents. Et il y avait deux personnes donc, qui étaient représentantes de ce courant, Cérinthe et Valentin. Et pour eux, leur pensée, c'était que le corps de Jésus, lors de l'incarnation, n'était qu'une apparence, une illusion. Dans le prolongement de cet enseignement, ils tourmentèrent l'Église du IVe siècle. Ils prétendaient que la matière était mauvaise, la nature humaine de Christ, le corps et l'âme n'étaient qu'un simple spectre, une vision, une illusion. Voilà, ça tourne, ça va loin. Hein. On se demande où ils vont chercher tout ça. L'incarnation, ça veut dire que l'incarnation n'aurait jamais existé. Et Christ, en fait, ne serait jamais né, ni jamais mort. Oui, il y a toutes sortes de choses qui essayaient de détourner le docétisme pourtant se répandit vraiment énormément. Il prit de l'ampleur. C'est même, ça a été une menace comme l'arianisme, où l'Église a failli chuter. Donc voilà, je n'ai cité que rapidement quelques exemples d'hérésie. Et puis je vais terminer avec... Alors là, je vous ai simplement cité quelques dates sur le christianisme officiel. Voilà, avec quelques dates. Alors on a parlé de l'édit de Nicée, mais voilà, j'ai rappelé l'édit de Milan. Donc on fait au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire de l'Église des lois pour essayer de rappeler le dogme, la religion juste et saine du christianisme, avec donc l'édit de Milan qui proclame la liberté de culte, le christianisme qui devient une religion officielle. Constantin l'a dit tout à l'heure, qui va décider d'utiliser la force pour réprimer les mouvements chrétiens conduits par Donatus, dont on vient de parler. Le concile de Nicée. L'empereur Théodose, un petit peu plus loin, en 380, qui va décréter le christianisme comme seule religion officielle et obligatoire. Les cultes païens deviennent interdits, mais les païens rentrent dans les églises. Des multitudes de païens vont se précipiter, vont rentrer dans les églises sans repentance ni conversion. Ils vont introduire des idolâtries, des superstitions, etc. Et donc le symbole de Nicée qui apparaît justement pour en contre-offensive, on pourrait dire, face à toutes ces hérésies qui apparaissent. Je vous ai mis quelques dates, puisque tout à l'heure Jean-Marie nous a dit l'histoire de l'Église primitive, elle s'arrête aux environs de l'an 500. Alors je vous ai mis quand même la fin, puisque nous devons terminer cette session sur l'Église primitive. Je vous ai donné quelques dates importantes, notamment la chute de l'Empire romain en 476, avec des peuples barbares qui envahissent l'Occident. Et en même temps, j'ai souligné voilà, un édit de Justinien, qui était l'empereur d'Orient, en 530. Et regardez, le baptême des enfants devient obligatoire, ainsi que la loi d'État. Un petit peu plus loin, en 606, le Panthéon de Rome, sous l'évêque de Rome, eh bien, on va consacrer le Panthéon à Marie, ainsi qu'à tous les saints. Donc voilà, ça commence à dévier dans toutes les directions. Et puis, pour terminer, en 607, l'empereur d'Orient, qui s'appelait Phocas, il va accorder à l'évêque de Rome le titre d'évêque universel, c'est-à-dire, on pourrait dire, de pape. Oui. On continue de... Voilà, donc on est parti de quelque chose qui était magnifique, mais ça continue quand même. Ne perdez pas de vue que voilà, l'Église de Jésus-Christ, malgré toutes les choses qu'elle a vécues, les persécutions, elle a survécu, elle s'est multipliée, elle s'est répandue, elle s'est dispersée à travers le monde. Et je voulais terminer donc en conclusion sur l'Église primitive, pour vous, qui vous formez pour devenir des disciples. L'Église donc primitive, c'est pas un récit historique. Bien sûr, ce matin, vous avez eu beaucoup de dates, beaucoup d'événements, etc. Mais en même temps, ça nous rappelle pour nous aujourd'hui que c'est vraiment notre modèle. C'est ce modèle qui fonde notre foi à nous. C'est notre source d'inspiration. Et nous serons toujours confrontés à toutes sortes de mouvements qui essaieront de dévier des principes de Dieu. Donc à nous d'être, je dirais, de bien connaître la parole de Dieu, d'être vigilant, de connaître la parole de Dieu, d'avoir une formation centrée sur une doctrine biblique qui est solide et de l'étudier, la parole de Dieu. J'ai envie de nous rappeler aussi qu'on a vu à travers cette Église primitive, on a vu à quoi ressemblait l'Église selon les principes de Dieu, et cela nous montre... à quoi notre vie doit ressembler, quelle doit être notre mission, comment nous devons vivre notre vie avec la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, déjà, les apôtres qui se sont répondus, voilà, rien ne se serait passé. Rien ne se serait passé sans la puissance du Saint-Esprit. Rappelez aussi que nous vivons dans une famille, dans une communauté, et que cette communauté, elle est importante parce qu'on l'a vu tout au long de l'histoire de l'Église, les barrières sociales qui étaient, ont disparu avec l'Évangile. Avec l'arrivée de l'Évangile, Jésus-Christ, il a balayé toutes ces barrières sociales. Et donc, nous sommes appelés à vivre donc, dans une communauté en disciples qui vit l'amour, le partage d'une façon concrète. Cette formation, elle a pour but de vous amener à être actifs. Elle a pour but de vous préparer à annoncer l'Évangile. Vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment les générations passées ont vécu certains événements, mais ça doit nous booster, ça doit nous fortifier pour comprendre que Jésus-Christ, il tient son Église. Il tient son Église. C'est lui qui est au-dessus de tout, et quelles que soient les crises et les tensions, les occasions de chute qui sont proposées pendant les différentes périodes de l'histoire, on sait que le Seigneur, il tient son Église et qu'il cherche à passer à travers nous pour que son Évangile avance. Notre but, pour terminer aujourd'hui, c'est vraiment de reproduire cet ADN initial de l'Église primitive. C'était à la fois une combinaison de doctrine, de vérité de doctrine, de puissance spirituelle et d'un amour communautaire, afin que notre témoignage à nous soit aussi percutant et transformateur que celui de l'Église primitive. Voilà, alors je m'arrête là. C'était peut-être un petit peu long, mais en même temps, j'ai pris beaucoup, beaucoup de raccourcis pour essayer de respecter le temps. Donc, Mélanie, nous te cherchions.
J'ai été surprise. Mais t'as... Est-ce que vous avez des questions ? On va en profiter parce qu'il est que midi 26. Les salades viennent d'arriver. Donc, on va profiter pour voir si vous avez des questions par rapport à la session que Dominique vient de faire. Y a-t-il des questions ? Des besoins d'éclaircissement ? Je ne sais pas. Quelque chose qui resterait un petit peu dans votre tête ou une interrogation ? Non ? Vous avez faim. D'accord.
Une question, Mélanie. Ah. Une question.
Qui a une question ? C'est Félicité.
Ma question concerne, vu que Noël approche... est-ce que vous pouvez nous éclaircir, que pensez-vous des chrétiens qui en fait ne fêtent pas Noël parce que c'est une fête païenne? C'est quoi l'histoire, comment dirais-je, l'histoire par rapport à ça, comment, oui voilà, autour de Noël, enfin pourquoi il y a des chrétiens qui se basent sur la fête, que ce soit sous prétexte que c'est une fête païenne et qui...
Alors, qui on a une réponse loin. Là-bas.
Ce n'est pas la fête qui est païenne, c'est la date. Alors, qu'on se réjouisse de la naissance de Jésus, pour moi, et qu'on fasse ça en décembre, en janvier, en février, au mois de juillet, moi je m'en fiche, mais que de temps en temps qu'on se souvienne de la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas la fête qui est païenne, c'est la date qui est païenne. D'accord ?
Donc en somme, on n'est pas un hérétique si on fête Noël. Sois en paix, ma sœur. Question. Levez haut la main.
Si dans l'Ancien Testament, il parle que les samedis, c'est les jours sacrés, et que Constantin, il a changé cette date pour les dimanches, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport alors au samedi, ou que les samedis soient les jours de repos et les jours de culte pour aujourd'hui, parce que c'est changé.
Qu'est-ce que l'on doit dire à qui alors
On continue toujours à... Si dans la Bible, elle parle dans les 10 commandements aussi de garder les samedis, mm-hmm. et aussi comme jour de repos et jour de culte, et dans l'Église catholique, ils ont changé ça pour les dimanches. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre si le plus correct, c'est le samedi ou le dimanche ou...
Alors là, je ne vais pas affirmer. Voilà, je laisserai là, peut-être un de nos pasteurs plus qualifié que moi répondre à cette question pour ne pas me...
J'ai peut-être une ébauche de réponse, mais je suis à vérifier. Mais il me semble que c'est le principe du Shabbat qu'il faut respecter. Peu importe que ce soit le mercredi, le samedi, le jeudi, il y a des restaurateurs qui travaillent le dimanche, il y a des infirmières, des médecins qui travaillent le dimanche. Je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est de respecter ce cycle de travail et de repos. Après, c'est selon ton cœur et ta paix aussi, il me semble. Le pasteur Pierre. Mais purée, mais incroyable. Et mine de rien, je l'ai dit au micro pour les gens qui ne sont pas là, il y a beaucoup de personnes au service le dimanche. Ouais. Ben c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand tu travailles, toi, les gens de ton travail, le week-end, ils se reposent. Le dimanche, ils sont en famille. Toi, le week-end, ça commence quand tu sers dans l'église. Donc, il y a aussi cette sagesse à avoir de repos, à quel moment tu te reposes quand tu as un travail et que tu sers à l'église aussi. C'est des vraies questions qu'on traitera peut-être cet après-midi.